La parole aux auditeurs d'Inter. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour Nicolas.
Vous nous appelez de Rennes, bienvenue.
Exactement, merci à vous. Bienvenue à la matinale de France Inter.
Merci.
Bonjour à votre invité. Ma question est très simple. Quel est le premier intérêt d'une entreprise entre distribuer des dividendes aux actionnaires ou garantir les intérêts des salariés? Cela va du salaire à ses conditions de travail. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien ne pas avoir de langue de bois, c'est-à-dire ne pas avoir votre réponse de tout à l'heure, genre l'entreprise et la réunion de différents intérêts actionnaires et salariés. Enfin, pour finir, j'aimerais faire juste deux remarques. Les dividendes ont augmenté bien plus que les salariés. Et enfin, ce que j'entends souvent, il n'est pas un coût, mais un prix. C'est une valeur ajoutée et non une charge.
Bien reçu, Anthony. Merci, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, vous répond sans langue de bois, s'il vous plaît.
Eh ben, ça sera sans langue de bois, mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et il ne vous a pas cru, Anthony.
Eh ben, je vais quand même le répéter parce que c'est la vérité.
Mais la question précise, c'est est-ce que les dividendes n'augmentent pas plus vite
non,
que les salaires?
Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est que votre auditeur ne croit pas que les entreprises doivent et ont intérêt, même pour leur survie, à veiller à servir les intérêts de toutes leurs parties prenantes, car si l'une d'entre elles se détournait de l'entreprise, et ça peut arriver, l'entreprise est en danger. Donc un chef d'entreprise, l'immense majorité des chefs d'entreprise, cherchent à servir les intérêts de leurs clients, de leurs salariés, de leurs actionnaires, et même de leurs fournisseurs, voire des territoires dans lesquels ils sont implantés.
Et dans c'est au mot presque que vous avez dit tout à l'heure. Hein.
Absolument. Et à la fin de cette semaine, vendredi, s'ouvre le forum sur l'économie positive qu'organise Jacques Attali.
L'inéquité, Antoine Frérot, c'est la deuxième question essentielle de notre auditeur.
Un petit mot sur le forum de l'économie positive. On répétera certainement vendredi, encore une fois, que l'économie sert l'ensemble de la population. Et dans une entreprise, l'entreprise sert l'ensemble de ses parties prenantes. Et si on
est-ce
ne
que,
veut...
Alors attendez, si on non, Antoine veut, Frérot, Antoine si, Frérot, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
non,
permettez-moi juste, parce que le temps nous est compté. L'inéquité entre les dividendes versés aux actionnaires et les augmentations de salaire pour les salariés. Donc c'était ça aussi le cœur de la question d'Anthony. Bon. L'inéquité.
En 2010, chez Veolia par exemple, les actionnaires avaient avec leurs actions une valeur qui est 10 ou 20% supérieure à celle d'aujourd'hui. Elle a baissé avec la crise. Et aujourd'hui on remonte progressivement. Mais on n'est pas au niveau de 2010. Les salaires n'ont pas baissé. Ils ont peu augmenté, mais ils n'ont pas baissé. L'iniquité, il faut la voir sur une certaine période de temps. Et je rappelle les masses. Un tiers d'un côté, 3% de l'autre. Un rapport de 1 à 10. Avec une baisse, parce que c'est vrai que ceux qui sont plus exposés, ceux qui prennent le plus de risques, sont aussi ceux qui ont aujourd'hui plus de pouvoir dans l'entreprise. Mais ils prennent leur risque et ça peut baisser. Et c'est ça, l'iniquité, vous ne pouvez pas la regarder d'une année sur l'autre, il faut la regarder sur un minimum de temps, le pas de temps normal de l'entreprise.
Léa Salamé.
Antoine Frérot, bonjour, vous êtes à la tête d'un des géants du CAC 40. On vous a entendu, on parle de l'iniquité entre les dividendes et les salaires des employés. Mais il y a aussi une autre iniquité entre les salaires des patrons et les salaires des employés. Je rappelle que c'est un rapport de 1 à 100, de plus de 1 à 100 en moyenne en France. Vous avez gagné 1,9 million d'euros l'an dernier, Antoine Frérot. Vous êtes très loin du salaire du patron de Carrefour ou de Carlos Ghosn, mais est-ce que vous trouvez que c'est trop?
Antoine Frérot.
Ouais, je pense que non, c'est pas trop. Je comprends.
Pourquoi c'est pas trop?
Je comprends le fait que des gens peuvent être choqués de ces masses-là. Je le compare également à ce qui se fait globalement dans l'ensemble des entreprises du monde. Bon. Il y a certainement des gens qui vont trop loin. Le rapport de, vous dites 1 à 100, mais si on exclut les extrêmes quand même, on est plutôt de l'ordre de 1 à 40.
Hein, bon. Pas dans le CAC 40. Pas dans le CAC 40. Par exemple, est-ce que vous dites, je comprends qu'on soit choqué quand on va trop loin, est-ce que Carlos Ghosn, c'est trop?
C'est pas mon problème. Je ne peux pas vous répondre à ça. Il faut demander à l'ensemble des gens, des parties prenantes de l'entreprise Renault, si le travail de Carlos Ghosn
mérite 7 millions par an.
Voilà, absolument. posez-leur la question. Mais encore une fois, opposer l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise avec les dirigeants, alors que c'est bien de leur lien, de leur solidarité à l'intérieur de l'entreprise que la survie de l'entreprise perdurera. Je pense qu'il faut le rappeler, même si ça apparaît une langue de bois.
Denis, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Monsieur Fréaud a depuis le Gazette pour évoquer justement le salaire des patrons, mais là n'est pas le sens de ma question. Ma question est beaucoup plus simple. Veolia a sans doute touché une somme importante du CICE. Monsieur Fréaud cite des chiffres, donc il va pouvoir citer celui-ci. Combien Veolia a touché de CICE? Combien d'emplois a-t-il créé? Entre guillemets, son patron, Pierre Gattaz, avait affiché un magnifique pins indiquant qu'avec le CICE, il pourrait créer 1 million d'emplois. Alors j'aimerais voir la réalité des chiffres, puisque Monsieur Fréaud a l'air très expert dans l'évocation de ces chiffres. Et si j'ai le temps...
Non, vous n'avez pas le temps, Denis. Il y a déjà une question très roborative qu'on repasse maintenant pour réponse à Antoine Fréaud. Mais oui. Merci de votre intervention. CICE, combien d'emplois créés?
Veolia, sur les 170 000 employés du groupe dans le monde, Veolia en emploie 45 000 en France. Le CICE a rapporté 60 millions d'euros à Veolia. La plupart des salariés de Veolia sont des salariés en dessous des 2,5 fois le SMIC, qui est, vous le savez, la limite du CICE, puisque les métiers de Veolia sont des métiers à forte intensité de main-d'œuvre. Ce CICE a permis, dans les nouvelles activités du groupe, d'accélérer les embauches, et dans les activités qui sont en difficulté, notamment la gestion de l'eau, pour les raisons que je pense beaucoup de gens savent, ça a permis de limiter les départs.
Mais combien d'emplois,
Léa Salamé?
On est à peu près constant sur la période, alors que dans les métiers classiques, l'emploi a diminué. On a perdu des contrats dans l'eau.
Donc en gros, le CICE vous a permis de ne pas virer des gens, mais est-ce que vous avez embauché des gens
sur les nouvelles activités, oui. Sur les activités de recyclage, sur les activités de dépollution nucléaire, sur les activités d'efficacité énergétique. Une activité qui n'existait pas il y a 4 ans chez Veolia. Aujourd'hui, on est 400 sur cette activité-là. Donc ces emplois-là sont des emplois créés. Le CICE n'a pas été la seule cause de leur création, mais il a aidé à les créer.
On retourne au standard. Aurélien, bonjour, vous nous appelez de Bourges.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Bon,
je vais quand même vous poser ma question, même si votre invité il a du mal à répondre aux questions qu'on lui pose.
Il vous donne pas forcément la réponse que vous souhaiteriez, monsieur, mais il répond quand même.
Allez-y, posez-la.
Moi, sur le CICE, la réponse, oui, elle est pas satisfaisante, parce qu'aujourd'hui, est-ce que Veolia pourrait vivre sans le CICE? Je pense, oui, il donnerait moins de bénéfices à ses actionnaires. La question, c'est, les principales activités de Veolia sont des missions de service public.
Oui, monsieur.
Distribution de l'eau, assainissement de l'eau. Est-ce que ces activités-là ne devraient pas retourner dans le secteur public au lieu de rester dans le secteur privé?
Merci Aurélien pour cette question. Antoine Fréaud vous répond.
Oui, monsieur. Quelle serait la raison pour laquelle ces activités ne pourraient pas être exercées par une entreprise privée?
C'est un bien commun, c'est ça, je pense, le fond de la question.
Mais monsieur Demorand, une entreprise comme Veolia, quand elle fait le métier de gestion de l'eau, elle ne vend pas de l'eau. Elle vend des services liés à l'eau. Du travail des gens qui travaillent chez Veolia pour mobiliser cette ressource. Vous pouvez aller dans la Seine avec votre seau, prendre de l'eau, personne ne vous donnera de l'argent. Le fait que cette eau, elle est lavée, purifiée, elle est apportée dans votre logement, tous les soirs on vient la chercher, on la relave. C'est du travail, ce sont des équipements, du matériel, c'est ça le coût de l'eau. Que ça soit une régie publique ou une entreprise, ce coût-là, il existera. La seule différence, c'est qu'une entreprise doit faire des bénéfices. Car sinon, elle meurt. Sans bénéfices, elle meurt, elle n'arrive même pas à renouveler ses matériels. Donc le problème que vous posez pour le service d'eau, il est le même que pour la fabrication des automobiles ou des brosses à dents. Est-ce que une régie qui fabriquerait des automobiles ou des brosses à dents, ça coûterait pas moins cher qu'une entreprise qui les fabrique?
Une question rapide de Bernard Guetta, puis Léa Salamé.
Les années Reagan et Thatcher ont mis à la mode et ont fait permis ce qu'on appelle les licenciements boursiers. Est-ce que vous considérez normal, puisque cela continue à se pratiquer et à grande échelle, que des usines, peut-être pas assez rentables, mais parfaitement rentables, soient fermées, que des salariés soient licenciés dans le seul but, dans l'unique but de faire augmenter la valeur de l'action de l'entreprise en bourse et d'augmenter les dividendes des actionnaires.
Antoine Frérot.
Non, je ne le trouve pas normal, M. Guettard. Mais si l'entreprise est un peu rentable, comme vous le disiez, quel est l'intérêt des actionnaires de la fermer ?
Non, pas de la fermer, de licencier.
Et de la fermer parfois, parce qu'elle n'est pas assez rentable.
Oui, mais là, on parle de licenciement boursier.
C'est mieux un peu que rien.
Ben, ils le font.
Et les actionnaires.
Mais ils le font.
Oui, ils le font parce que c'est plus rentable ailleurs.
Voilà. Ça n'a pas de sens.
C'est Thomas Legrand. Attendez, on laisse répondre notre invité, s'il vous plaît.
Si elle est un peu rentable, ce petit peu-là est mieux que rien. Pour les actionnaires,
on devrait vous écouter, mais ça n'est pas la
Bernard,
vérité.
S'il vous plaît.
Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne ferme pas une entreprise qui est un peu rentable. Sinon, ils y perdraient, les entreprises.
Non, mais se délester, Antoine Frérot, d'un certain nombre de salariés à des fins boursières.
Non, mais M. Guetta parle plutôt de la délocalisation, j'imagine.
Des licenciements boursiers, la question portée là-dessus.
Il faut être précis quand on parle de choses comme ça. Il a d'abord parlé de fermeture d'entreprise peu rentable. Bon, je dis, ça n'a pas de sens de les fermer parce que ce peu est mieux que rien. Ensuite, vous évoquez les licenciements boursiers, c'est-à-dire de chercher à faire augmenter les bénéfices en diminuant la masse salariale, en gagnant sur la productivité.
Le downsizing.
Bon. À condition de garder quand même, il faut quand même que ça augmente le bénéfice pour que ça soit intéressant. Donc ça veut dire qu'il faut que le chiffre d'affaires continue à se porter à un bon niveau. Bon.
Léa.
Bon.
Léa Salamé.
Donc, il faut donc être capable de continuer à produire la marchandise qu'on veut vendre. Bon. Si on peut le faire avec moins d'emplois, c'est qu'il y a eu des gains de productivité. Donc c'est comme ça que ça se passe.
Léa.
Alors, votre question c'est, est-ce que c'est normal ? Encore une fois, un chef d'entreprise doit prendre l'ensemble des intérêts d'ensemble de ses parties prenantes. Si il privilégie uniquement les actionnaires au détriment des salariés, l'entreprise aura des problèmes.
Léa.
Et donc, il ne peut pas le faire sur une longue période. Et en tous les cas, c'est ce que je milite pour cela et c'est ce qu'on va redire vendredi.
Antoine Frérot, moi, je voudrais saluer votre courage d'une certaine manière de venir à ce micro ce matin parce que c'est difficile pour les chefs d'entreprise de venir s'exprimer.
Vous n'êtes pas nombreux. On n'a pas eu encore les tweets, Léa.
Vous n'êtes pas nombreux, mais pas seulement sur Inter, sur toutes les radios, particulièrement sur Inter. Vous acceptez les questions des auditeurs et c'est rare, et je le sais parce que quand on cale les invités, c'est assez rare pour des chefs d'entreprise et notamment des patrons du CAC 40 de venir accepter la confrontation avec les questions des auditeurs.
Vous savez pourquoi j'étais venu, Madame Salamé ?
Pourquoi ?
Parce que Monsieur Demorand m'avait dit qu'on va parler d'apprentissage.
Alors justement, c'est ma question.
J'ai rien dit, on ne s'est pas parlé au téléphone. Léa Salamé,
ça tombe bien.
Non, pas du courage, alors.
Ça tombe bien.
Non, j'ai rien dit.
Ça tombe bien, c'est ma question. Vous êtes un ardent défenseur de l'apprentissage. Vous dites qu'il faut promouvoir l'apprentissage, il faut qu'on ait plus d'apprentis en France et que leur image soit plus belle en France. Moi, j'ai une seule question. Est-ce que vous avez poussé l'un de vos enfants à être apprenti?
Antoine Frérot.
Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, l'un voulant être médecin, l'autre, peut-être que ma dernière le sera d'ailleurs apprenti, mais en études supérieures. Le problème ne s'est pas posé.
Mais vous avez compris le sens de ma question, c'est qu'en général, on entend beaucoup les grands patrons.
L'apprentissage, c'est pour les autres.
Voilà, l'apprentissage, c'est pas pour mes enfants, c'est pour les autres.
C'est pas pour ceux qui sont brillants, donc.
Alors, si, justement. Veolia, il y a 20 ans, a décidé d'assurer le recrutement de ses salariés, col bleu comme col blanc, essentiellement par l'apprentissage. Depuis 10 ans, plus de 70% des recrutements sont faits par apprentissage. Pour tous les types de populations. Je peux témoigner que l'apprentissage, ça marche. Il se trouve que les métiers de Veolia, qui sont des métiers de terrain, forts en intensité de main-d'œuvre, mais aussi en intensité de technique, sont particulièrement favorables à ce développement-là. Mais ça marche. Or, ce qu'on constate, c'est qu'en France, l'apprentissage stagne. Il monte un peu en études supérieures, et c'est très bien qu'on puisse faire des études supérieures à l'apprentissage, parce que l'apprentissage a mauvaise presse dans notre pays. Il est considéré comme une voie de garage, qu'on ne pourra pas faire des études supérieures si on en a les capacités ou l'envie. Or, c'est bien que ça augmente. Mais en revanche, pour les autres catégories, et notamment pour les CAP ou les bacs pro, ça baisse, alors que dans les autres pays, ça monte. L'apprentissage est une voie d'insertion idéale pour les gens qui sortent de l'école sans qualification, ceux pour lesquels l'école est mal faite. Parce que l'école ne peut pas être faite bien pour tout le monde. 80% des enfants s'y adaptent bien, mais une petite vingtaine de pourcents pour lesquels elle est sans doute trop abstraite. Ces jeunes-là ont besoin de concret pour pouvoir acquérir les connaissances de base. Les autres pays ont montré que l'apprentissage est une voie d'insertion pour cela idéale. Et Veolia, depuis 20 ans, le montre aussi. Donc il y a une voie pour cela. Il y a néanmoins un certain nombre de mesures à prendre qui se trouvent aujourd'hui dans le programme du candidat Macron. Et donc, si ces mesures sont mises en œuvre, je pense qu'on peut espérer, à condition que les entreprises se mobilisent, parce que les entreprises ont également une responsabilité, si elles se mobilisent pour pouvoir accroître l'apprentissage, notamment pour cette catégorie de la population.
Quelques mots très rapides et réactions sur les réseaux sociaux. Thierry vous demande de ne pas confondre 3-5% du chiffre d'affaires pour le capital et un profit distribué à 3-5%. D'autres questions sur votre comparaison entre l'eau, je vous transférerai le message sur votre comparaison entre l'eau et la voiture, c'est pas la même chose, c'est un bien public, un bien commun, nous dit Ali.
Mais Monsieur Demorand, je conviens que l'eau est un bien commun. Je dis que je ne commercialise pas de l'eau. Je commercialise des services liés à l'eau. Vous savez combien il y a de quantités de marchandises eau qui rentrent dans votre domicile chaque jour?
Non.
Une demi-tonne, en moyenne, par famille et par logement. Chaque jour, on apporte une demi-tonne de marchandises dans votre logement. Et chaque soir, on vient la chercher et la nettoyer. Parce que vous consommez, comme tous les Français, en gros 130-135 litres d'eau par jour avec trois personnes dans la famille, ça fait une demi-tonne. C'est le service qui a un prix, un coût. Ce n'est pas la ressource naturelle.
Une dernière question, rituel, vous est posée par Augustin Trapenard. Bonjour Augustin, on vous écoute.
Salut Nicolas, bonjour Antoine Frérot.
Bonjour,
c'est
monsieur.
Une expression qui revient tout le temps dans votre discours, il faut réconcilier les Français avec l'entreprise.
Oui.
Et moi je me suis demandé pour qui réconciliation, il faut bien qu'il y ait une séparation. À quel moment est-ce que vous avez observé cette rupture et surtout pourquoi, à votre avis, est-ce que le mot entreprise est devenu un gros mot, Antoine Frérot?
Je peux répondre au pourquoi. Le quand, c'est un peu plus flou. Le pourquoi, c'est parce que les Français ont le sentiment que les entreprises créent de la richesse. Seulement pour quelques-uns. Et en gros, ce qu'on a dit depuis ce matin, pour les actionnaires et les patrons. Je dis, ceci est une impression erronée. On peut discuter du partage de la richesse créée et de la manière dont elle est partagée. Mais les entreprises créent de la richesse pour tous. Et c'est pour ça que je veux, et que je martèle un petit peu cette idée, pour que les Français partagent l'idée et que l'entreprise est un objet d'intérêt général pour le pays, pour la nation, pour la population, pas seulement un objet d'intérêt particulier.